l'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Michèle Taubert, la nouvelle directrice du département d'études hébraïques et juives de l'Université de Strasbourg. À propos de la présentation de l'ouvrage de Rosie Pinhas Delpuech, le typographe de Whitechapel, aux éditions Actes Sud. Ce sera le mercredi 30 mars à la librairie Kléber à 17h. Michèle Taubert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Strasbourg depuis une année à la direction du département d'études hébraïques et juives de l'Université de Strasbourg. Quel est votre parcours, Michèle Taubert ?
Ah, bon, je vais essayer de faire vite. J'ai grandi à Paris. Je suis partie étudier en Israël pendant 5 ans. Et rentrée en France, je me suis plongée cette fois dans de véritables études d'hébreu, parce qu'en Israël, j'ai fait des tas de langues, comme il se doit dans un
dont
pays.
Le russe, hein.
Dont du russe, effectivement. Et donc, agrégation, doctorat, habilitation. Et voilà, et je suis professeure cette fois et directrice de ce département prestigieux, puisque tout de même une chaire créée par le professeur Nair en 1955, ça n'est pas rien, et je ne m'aimais pas dans ceux de mes prestigieux prédécesseurs, messieurs Guatchel, Fenton, Bannon.
Et pourquoi le choix des études hébraïques ? Ça s'est imposé de quelle façon à vous ?
Ah, oh. Alors, études hébraïques, effectivement, c'est ce qu'on enseigne, donc dans toute leur diversité. Mais en ce qui me concerne, ça a toujours été la littérature, quelle que soit la langue d'ailleurs. Et donc, quand j'ai commencé un petit peu à me spécialiser en hébreu, ça a été la littérature et ça a été spécifiquement la littérature moderne et contemporaine, c'est-à-dire cette littérature hébraïque qui va naître à la fin, à la charnière du XXe siècle, à Odessa. Nous voici en Ukraine, et qui va donc faire son chemin jusqu'à s'implanter définitivement en Palestine ottomane, puis mandataire, et bien sûr dans l'État d'Israël. Ceci étant, il existe, je précise, hein, il existe aussi une petite littérature en hébreu en diaspora.
Quel est le profil de vos étudiants ici à l'Université de Strasbourg ?
Ah, très varié. Alors, nous avons un groupe fort sympathique de jeunes et sémillants semi-retraités ou retraités qui travaillent très sérieusement, très assidûment et passent des examens et font tout ce qu'il faut. Nous avons de jeunes étudiants, eux, qui sont inscrits dans des parcours aussi bien un parcours d'études juives, mais aussi grâce à la grande diversité de notre faculté des langues, qui, je le précise, compte 27 langues au compteur en enseignement. Donc cette grande diversité a créé des diplômes triculturels ou trilingues, c'est-à-dire que l'hébreu peut s'insérer dans un parcours où l'on étudie également l'arabe et le turc, ou l'arabe et le persan et l'hébreu, hein, enfin pas forcément en troisième d'ailleurs, ça peut être en deuxième langue aussi, voire en première si le niveau le permet. Et puis nous avons aussi, puisque tous nos cours, et ça j'aimerais bien que les auditeurs l'entendent, tous nos cours, absolument tous, sont ouverts à tous les départements. Quiconque veut commencer en hébreu depuis Aleph Bet, c'est-à-dire depuis l'ABC de l'hébreu, le peut, même s'il étudie, même s'il fait médecine, ou s'il fait droit, ou s'il fait, que sais-je, chimie moléculaire. Ça peut tout à fait rentrer dans son parcours. S'il veut étudier l'histoire du sionisme, s'il veut étudier la littérature hébraïque moderne, la littérature rabbinique, la Bible, que sais-je, toutes les époques et tous les pan de rien de ce qui est hébreu n'est étranger à ce département et rien de ce qui est juif non plus. Voilà.
Michèle Taubert, le yiddish est important pour vous aussi.
Oh,
c'est un petit peu votre langue artistique. Vous
pas
chantez
que.
En yiddish.
Oui.
Vous avez sorti un album. Il est sorti là en novembre 2019, La métamorphose des mélodies. C'est une façon de véhiculer le yiddish ou c'est vraiment votre part artistique ? C'est une part de vous que vous aviez envie d'exprimer ?
Ah, c'est constitutif, c'est génétique presque,
on voit
je
ça.
Dirais. En fait, quand on parle de yiddish, je ne peux pas le séparer de l'hébreu. C'est la raison pour laquelle cet album, justement, comporte un CD tout yiddish et un CD tout hébreu et qu'il chemine de compagnie. Comme le disait un professeur d'université israélien à son étudiant Aaron Appelfeld, cet enseignant s'appelait Dov Sadan, il disait « Le yiddish et l'hébreu sont deux jumelles sous un même toit ». Et c'est ma sensation parce que j'ai grandi dans le yiddish, même si mon père ne m'a pas parlé cette langue. Je l'ai intégrée en moi, elle fait partie vraiment de ma constitution, je l'ai étudiée, je continue d'ailleurs à l'étudier. Donc pour moi c'était évident à partir du moment où je chantais et j'ai toujours chanté, je crois. Enfin, ça, c'est un héritage maternel. À partir du moment où je chantais, j'allais chanter les chansons yiddish entendues à profusion dès l'enfance, et puis les accompagner aussi de l'hébreu. Ce qui fait que, dès que la maquette universitaire nous le permettra, d'ici un an et demi, j'introduis le yiddish, l'enseignement du yiddish, à l'université, ainsi que l'enseignement aussi d'une judéo-langue arabe, c'est-à-dire judéo-marocain, par exemple.
C'est une très bonne nouvelle.
Voilà.
Si on aura appris quelque chose.
Qu'on se le dise.
Je propose qu'en fin d'interview, on retrouve un extrait de la bande musicale de ce dernier album, La Métamorphose des Mélodies. Alors, vous êtes venu aujourd'hui nous parler de Rosie Pinhas Delpouesh. Elle sera, je le disais, en présentation de son ouvrage Le typographe de Whitechapel, un livre consacré à Yosef Yaïn Brenner, l'un des plus grands novateurs de la littérature hébraïque moderne du XXe siècle. Alors, dites-nous, qui est Yosef Yaïn Brenner ?
Alors, Yosef Chaim Brenner est né en Ukraine en 1881. Il suit évidemment la trajectoire de tout garçon juif classique de l'époque, c'est-à-dire non seulement le Haïder, l'école maternelle et primaire, mais aussi la yeshiva. Et puis il va, comme d'autres nombreux garçons de l'époque, s'en affranchir, mais en tout cas aller regarder ailleurs, vers ce qu'on appelait les sciences externes ou profanes. Et il va devenir très très jeune un journaliste, un rédacteur de revue qu'il va fonder, un écrivain, un polémiste et quelqu'un de très engagé sur le plan social. Il va fuir l'Empire russe à l'annonce de la guerre russo-japonaise à laquelle il ne veut pas prendre part. Il va vivre à Londres entre 1904 et 1908 dans ce quartier célèbre, enfin aujourd'hui peut-être un peu moins, mais en tout cas pour sa population juive et non juive d'ailleurs, extrêmement misérable, hein, des petits ouvriers vraiment qui vivent dans un dénuement, une pauvreté. Enfin, Rosie en parle et puis elle cite également Jack London qui a fait lui aussi le voyage un petit peu avant Brenner et qui a laissé. Et là, il va créer une revue. Pour une association des hébréophones, il doit y avoir 10 personnes au grand maximum. Donc pour qui, pourquoi, hein, tout cet hébreu qui le tient au corps, là, pour le coup. Et il va finir par partir. Alors, c'était un petit peu au petit bonheur la chance, c'était soit les États-Unis, soit la Palestine. Il choisit la Palestine. Dès son arrivée, il comprend, en voyant la cohabitation encore pacifique à cette époque, dans les années avant la Première Guerre mondiale, des Juifs et des Arabes, que ça risque d'être problématique. Il va continuer son œuvre littéraire, une œuvre extrêmement pessimiste, une œuvre très noire, une œuvre de personnages désemparés, ce qui est d'ailleurs le nom d'un des personnages d'un roman. Et malheureusement, sa prémonition s'avère tristement exact, parce qu'il sera assassiné lors des événements, comme on dit, de Yafo, de Jaffa en 1921. C'est une figure non seulement centrale, mais première, enfin princeps de la littérature moderne. C'est vraiment lui qui va jeter les bases de la littérature en hébreu moderne, c'est-à-dire complètement s'affranchir de l'écriture en hébreu biblique, hein, en hébreu classique. Et puis, il est extrêmement inspiré, comme bon nombre de ses camarades écrivains, par la littérature russe. Et Dostoïevski et Tchekhov en première ligne, si je puis dire. Alors, il n'est pas tout seul, on l'associe toujours avec son alter ego, qui s'appelle Uri Nissan Gnessin, et qui fera l'objet, je n'en doute pas, d'une prochaine émission, même s'il n'est pas encore traduit en français. Brenner n'est quasiment pas traduit en français. Il y a une traduction qui date de plus de 30 ans, qui s'appelle Le Marginal. Mais Rosie Pinhas Delpouesh, donc grande traductrice de l'hébreu vers le français, mais également auteur, hein, ou autrice, comme on dit aujourd'hui, elle-même, écrivain, s'est penchée justement sur Brenner, puisque le sous-titre de cet ouvrage, c'est pas un roman, est « Comment Chaim Brenner réinventa l'hébreu moderne ». Et qu'est-ce que c'est que réinventer l'hébreu moderne ? C'est en fait écrire en hébreu, certes, mais dans un souffle autre, c'est-à-dire un souffle qui se démarque justement du souffle de la langue biblique. Alors, d'aucuns diront, oui, il a occidentalisé l'hébreu, il a introduit des anglicismes, des turquismes, des arabismes, des, tout ce qu'on veut, des yiddishismes aussi d'ailleurs, et de temps en temps, évidemment, le yiddish était sa langue maternelle. Mais en même temps, il y a une espèce de rythme et de façon d'écrire la langue qui est proprement novatrice. Et puis évidemment, ce n'est pas du tout une littérature sioniste, même s'il vit dans sa chair, il vit à l'époque de la création du sionisme, du premier congrès de Bâle 1897. C'est une littérature de l'individu, une littérature, je ne dirais pas psychologisante, mais en tout cas où les pensées des individus sont vraiment omniprésente dans le livre. C'est une littérature sociale, parce que il y a une peinture de cette classe sociale misérable juive londonienne, entre autres. Après, on est en Palestine, c'est autre chose. Ce qui fait que pendant, on va dire, les 40 premières années, en gros, du sionisme idéologique, idéaliste, le collectif, le anachnou, le nous, hein, qui prédomine quand même la littérature en hébreu, dans le pré-Israël et dans l'État, n'est pas du tout faite pour lire Brenner, évidemment. Et il va être redécouvert, comme il se doit, par la génération des fils qui font fi des pères, pour être poli, et qui donc redécouvrent, évidemment, cet auteur et d'autres. Hein. Il n'est pas tout seul, évidemment, mais lui, vraiment, figure de proue.
Je propose à nos auditeurs de poursuivre cette conversation le 30 mars à 17h à la librairie Kléber, où c'est vous qui présenterez l'autrice, comme vous disiez, Rosie Pinhas Delpuech, pour son ouvrage Le typographe de White Chapel. Merci à vous.
Merci. Die goldene Pave über den schwarzen Jahr. Sie trug der liebe Briefele, a rose liebe Briefele vor dem Rabbeinu Tam, vor dem Rabbeinu Tam, dam 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 dam. Na et shir elifelet, v'nagida kulam.